كوتول. نحكيه على العلاقات التونسية السويسرية، ذاك علاش حاضر بحذان ممثل سويسرا بتونس، ونحكيه على سويسرا، وبالتالي نحكيه على سون اكسلنس لامباسادور دو سويس ان تونيزي مسيو جوزيف رينغلي. بيانفينو parmi nous. مرحبا.
يعيشك. أنا فرحان باشا باش نجم نكون هوني معك.
شكرا لك على الحضور. قلت قبيلة لي مزيج كومونسو ان تي بو بار سيت بوتيت هيستوار باسكو سي تري امبورطون ان فيت. فوز افي في ليفور دابراندر نون سولمون لا لونغ عرب مي لو ديالكت تونيزيان.
أكهاو التونسي.
التونسي كهاو.
التونسي أكهاو.
قديش مدة زمنية اللي عديت أتعلم في اللهجة التونسية؟
وقت وصلت في تونس، وليت تونس عندي 4 سنين، فكرت ممكن حاجة باهية باش نجم نحكي شوية مع الناس على الشارع بال you know الهوار فسيت، مش الهوار بروفيسيونيل، هذا حاجه صعيبه برشا. هذاك علاش وقت نعملوا توا المباقله نعملوا بفرنسي، ما الحاجه بسيطه نجم نحكي شويه بالعربية.
المعاملات اليوميه دونك بالعربيه ممتازه، 4 سنوات تقريبا وتحكي بالتونسي بالحق، معناتها نكون الناس باش نحكيو توا بالفرنسيه، ولكن في الحياه اليوميه تتعامل باللهجه التونسيه، معناتها مع مختلف الناس تتعاطى معاهم تقريبا.
المشكله شويه في تونس كل الناس يحكيوا بالباقي الفرنسويه والانجليزيه. هذاك علاش ما فماش برشا مناسبه باش نعمل التمرين،
ما يعطيوكش الفرصه باش تحكي بالعربيه.
أي عندي الناس في دار، الناس هما يخدموا في داري، والشوفير نحكي دوا كازيمون 100% بالعربي،
باللغة
في المناسبة رسمية بروفيسيونيل نحكي بفرنسية،
باللغة الفرنسية. توا تقريبا 4 سنوات، فأكثر عندك أكثر من 4 سنوات في تونس.
أي في العادة السفراء السويسريين يقعدوا 4 سنين في البلاد يخدموا فيها، معنا تونس أشبتني برشا وتونس استقبلوني بالباهي. هذاك علاش طلبت باش نسيد عام آخر هوني في تونس، والحمد لله الإدارة في بيرن وافقت. هذاك علاش نعمل عام آخر هوني في تونس.
مرحبا بك. ما تخرج من تونس لما تولي نحن نقوله بالتونسي تجلجل بالتونسي معناتها.
إن شاء الله إن شاء الله.
دوك نحكيه اليوم على العلاقات التونسية السويسرية في خضم الحديث حول البرنامج، كما قلت البرنامج التعاون الاقتصادي 2025-2028. كان عندك لقاء مع الأسبوع اللي فات يوم الخميس تحديدا في إطار رسمي حول الموضوع مع الوزير، وتم الحديث أو تبادل وجهات النظر حول التعاون والعلاقات الاقتصادية التونسية السويسرية. خلينا نبدأ من المنطلق، commençons par le commencement et justement par cette histoire ou l'histoire de la relation tuniso-suisse. Ça date de 70 ans à peu près, c'est ça?
Oui, la Suisse était un des premiers pays en 1956, après l'indépendance de la Tunisie. Nous avons, le Conseil fédéral, le gouvernement suisse a assez rapidement aussi reconnu la Tunisie et nous avons établi des relations bilatérales. Cela veut dire qu'on pourra célébrer cette 70 en Suisse, oui. 70e anniversaire des relations l'année prochaine, effectivement.
Donc 70 ans de relations, comment est-ce qu'on peut décrire ces relations en Tunisie-Suisse aujourd'hui?
Ils sont très bonnes, ces relations. Disons, il n'y a pas de. On est, je crois, aussi des pays assez similaires, une taille similaire. La Tunisie a un peu plus de population que la Suisse, mais aussi la taille de la Tunisie est un peu plus grande. Mais je crois qu'on a aussi dans le passé, on a des fois appelé un peu la Tunisie la Suisse de l'Afrique du Nord. Il y avait une étroite amitié de Bourguiba avec la Suisse. Il était souvent en Suisse et je crois que ça a toujours un peu aussi. C'était un symbole pour les relations très bonnes. On a aussi, par exemple, ma résidence, on a une situation très particulière. On est à l'intérieur du palais présidentiel. Ça, c'est aussi, je crois, quelque chose qui... Pas n'importe quel pays pourrait faire ça. Et nous, on est là, on est très bien là. Et puis, une très bonne relation avec l'État tunisien, effectivement.
Ouais. Économiquement, comment est-ce qu'on peut évaluer la relation aujourd'hui? La Suisse, par exemple, est aujourd'hui le 10e investisseur étranger en Tunisie. En termes de création d'emplois, c'est le 5e, avec environ 14 000 emplois créés ou postes répartis dans une centaine d'entreprises à peu près. Comment est-ce qu'on peut décrire la situation économique ou la coopération plutôt économique?
Oui, ces relations, ils sont aussi, je crois, ça correspond un peu, disons, ce 10e rang en tant qu'investissement, mais aussi en tant que commerce, ça correspond un peu à la taille économique de la Suisse. Il y a toujours certainement du potentiel. Mais effectivement, c'est ça, c'est à peu près 420 millions de francs suisses millions de francs suisses de volume de commerce, importation et exportation.
C'est 420 millions, c'est ça?
412 ou 415 millions de francs suisses, c'est à peu près 1,5 milliard de dinars par année. Importation et exportation.
D'échange,
donc. Voilà. D'échange, voilà. Et là, certainement, on y travaille. Hein, ça, c'est dans l'intérêt de deux pays d'augmenter ça. Ça augmente légèrement chaque année, mais il y a certainement du potentiel pour en faire plus encore dans l'avenir, effectivement.
Alors justement, vous parlez de potentiel et actuellement, on parle de... tout à l'heure, on va faire le focus sur le programme économique 2025-2028. Mais si on essaie de faire un petit focus sur les secteurs... où il y a une forte concentration en fait d'investissement, on va remarquer que c'est essentiellement le textile, par exemple. Je crois que ça accapare 70% pratiquement des échanges ou des exportations, spécifiquement des exportations. Alors, pour commencer, est-ce que c'est un modèle qui a été choisi, donc de travailler sur un ou deux secteurs spécifiques? Et vous avez parlé de potentiel. À quel point on peut dire que c'est pas encore, où le marché n'a pas encore vraiment été exploité comme il le fallait?
Je pense pas qu'on peut dire que ça a été choisi, que quelqu'un a décidé, nous faisons plutôt des investissements dans tel secteur ou un autre secteur. C'est juste des opportunités qui se sont présentées dans l'histoire, dans le passé. Et effectivement, c'était toute l'économie tunisienne qui était assez forte dans le textile, et logiquement, il y avait aussi des investissements en Suisse dans ce secteur. Là où il y a beaucoup d'investissements, il y a aussi beaucoup de commerce, disons beaucoup de l'exportation de la Tunisie vers la Suisse, et aussi dans le textile, mais il y a aussi d'autres. Il y a aussi des... Par exemple, depuis la Tunisie, il y a aussi des produits agricoles qui vont en Suisse. Il y a des produits électroniques, des composantes électroniques, par exemple. Disons, c'est plus varié que seulement le textile, et ça change aussi. Mais c'est pas, disons, aussi de l'investissement. C'est pas que l'État suisse qui pousse pour des investissements. C'est vraiment les entreprises qui sont internationales, qui regardent toutes les possibilités qu'il y en a partout au monde et qui choisissent un pays comme la Tunisie parce que quand ça leur convient, ils choisissent la Tunisie.
Justement, comment la Suisse appuie-t-elle la diversification des filières tunisiennes vers des segments à plus forte, peut-être valeur ajoutée, par exemple?
Justement, quand on parle de proprement l'investissement, c'est... quand les entreprises décident de faire ça, c'est pas l'État qui intervient. On n'a pas de rôle dedans. Hein. C'est vraiment le secteur privé qui analyse la situation. Et après, quand il trouve c'est opportun de faire un investissement, il le fait. Mais nous sommes, et ça peut être, c'est un peu une autre question après, c'est comment est-ce qu'on soutient le développement de la Tunisie? Voilà, parce que c'est notre programme de coopération. Mais là, ce n'est pas lié vraiment à notre relation économique. Ce n'est pas nous faisons de la coopération en Tunisie pour exporter plus ou pour pouvoir investir plus en Tunisie. Là, c'est vraiment, c'est un peu séparé. C'est une analyse de la situation en Tunisie. On travaille étroitement ensemble avec les autorités tunisiennes pour soutenir la Tunisie dans son développement.
Donc, on va y arriver en fait, parce qu'on va parler justement du programme économique après. Mais quand on parle de coopération économique avec tous les chiffres qu'on a présentés depuis le début, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la coopération économique tuniso-suisse, elle traduit, selon ce qu'on dit, du moins, ou les différentes informations et données qu'on a, elle traduit quelque part une proximité stratégique, ou plutôt un marché à fort potentiel, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais qui est encore fragile, quelque part?
Oui, je crois je pense qu'il y a du potentiel. On voit ça aussi quand on regarde un peu les investissements. Là, on constate par exemple que ceux qui sont déjà là, il y a plus souvent, ils font des investissements supplémentaires parce qu'ils connaissent déjà le marché. Cela veut dire, par rapport à ceux qui ne connaissent pas encore la Tunisie, où c'est peut-être il y a plus de préoccupations, des inconnus, ils ne connaissent pas très bien le marché du pays.
Des difficultés, par exemple, quelques difficultés.
Peut-être aussi des difficultés. Et là, on constate qu'il y a plus de succès, disons, l'investissement en Suisse, en Tunisie, a plus de succès parmi les entreprises qui sont déjà présentes sur le marché.
Donc, il faut surtout connaître le marché pour pouvoir avancer ou améliorer et faire évoluer l'investissement. C'est beaucoup plus compliqué pour ceux qui, pour les nouveaux en fait, les nouveaux venus, les nouveaux investisseurs ou ceux qui pensent ou se projettent dans l'avenir.
Parce que c'est quand même peut-être du point de vue, surtout je dirais aussi en Suisse, peut-être il faut encore un peu différencier entre la Suisse romande où on parle français, où certainement la Tunisie est un peu plus proche. Il y a aussi beaucoup plus d'étudiants tunisiens qui vont étudier en Suisse romande, après qui aussi restent en Suisse romande. Là, il y a plus de connexions aussi humaines. Par rapport à la Suisse alémanique, et la Suisse alémanique, c'est quand même la plus grande partie de l'économie suisse, qui sont peut-être plus orientés vers l'Europe de l'Est quand il s'agit de s'élargir, de faire des investissements à l'étranger. C'est une question de temps, je crois, aussi de faire connaître la Tunisie. Mais je crois que les points forts de la Tunisie sont connus. C'est vraiment la position géographique, très proche de l'Europe, très proche de ce grand marché européen de 500 millions de consommateurs, le pont vers l'Afrique, un capital humain très développé, des gens vraiment très bien qualifiés, avec des connaissances, on parlait de ça avant, des connaissances linguistiques, ils parlent parfaitement français, la plupart des gens parlent aussi très bien l'anglais, on parle l'arabe. Là, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de points forts à utiliser pour faire des progrès à l'avenir. Et ça, c'est pas seulement pour la Suisse, mais ça, c'est pour la relation avec toute l'Europe.
Alors on va justement parler du programme qui a été présenté en fait 2025-2028, doté de 211 millions de dinars tunisiens. C'est le programme qui vient d'être annoncé. Comment cette enveloppe en fait sera-t-elle répartie entre économie, inclusion économique et sociale, gouvernance? C'est quoi les axes en fait? Quels sont les axes sur lesquels on va vraiment travailler pendant la concrétisation de ce programme?
Oui, il y a deux grands sujets sur lesquels on travaille, c'est la prospérité et la stabilité. C'est vraiment les mots clés. Et c'est le développement économique et le développement social. Et là, on a aussi un peu regardé quelles sont les priorités de la Tunisie, de l'État tunisien. Et quand on a réécrit ce programme, justement pour cette nouvelle période, on a aussi fait des séances avec le gouvernement, avec les autorités, pour vraiment bien discuter où est la Tunisie intéressée de faire quelque chose avec nous, pour après prendre ses décisions. On ne veut pas, nous, avoir des idées, faire des choses et les imposer à la Tunisie. Ce n'est pas l'idée. On veut vraiment travailler ensemble pour faire les choses ensemble. Et maintenant, je ne peux pas vous donner des chiffres, ce n'est pas encore clair. Disons, on n'a pas un pourcentage, un pourcentage qui va à l'économie, un pourcentage qui va...
Des estimations en avant-première, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des estimations par rapport au poids, par exemple, de quelques secteurs, de quelques filières qui seront vraiment privilégiées pendant
Oui, je peux vous nommer quelques domaines sur lesquels on travaille, qui sont très importants, mais qui sont déjà depuis longtemps très importants. Par exemple, la formation professionnelle, ça c'est peut-être un des... ou le programme le plus important qu'on fait déjà depuis très très longtemps. J'ai vu un vidéoclip d'une émission de la télévision suisse de 1965, ça veut dire il y a 60 ans, qui parlait, là c'était une interview avec un coopérant à Gabès, et ils avaient un centre de formation professionnelle à Gabès, il y a 60 ans. Et on est encore dedans, ça veut dire c'est vraiment une longue tradition. C'est pas qu'on fait un nouveau programme et on change les choses d'une manière drastique. Alors la formation professionnelle, c'est vraiment très important, ça continue. C'est pas la formation professionnelle de base, mais c'est vraiment une formation supplémentaire où on travaille étroitement avec les autorités tunisiennes, avec le secteur privé, pour identifier quels sont les besoins du marché de travail pour des qualifications supplémentaires, où on ne trouve pas assez de main-d'œuvre formée, bien formée, pour après être là d'une manière très ciblée, active, pour justement préparer les jeunes sur le marché de travail. Ça, c'est un exemple. Un autre projet qui a eu beaucoup de succès, c'est par exemple le tourisme alternatif, où on a développé un système qu'on connaît en Suisse aussi, ça s'appelle Destination Management Organization, où une localité tunisienne, une localité, disons, d'un endroit en Tunisie ou en Suisse, on veut faire en sorte que tout le monde qui est actif dans le tourisme dans cette localité travaille bien ensemble, se coordonne pour promouvoir, améliorer l'offre touristique de l'endroit. Et on a développé ça en Tunisie, à Djerba et dans le Dahar. C'est la gêne montagneuse au sud, proche de Tataouine et de Medellin. Ou par exemple, on a développé tout un système de maisons d'hôtes, de restaurants, de guides formés, des cartes pour faire des randonnées, pour vraiment essayer à développer l'offre touristique de cette région-là.
Donc, vous l'avez déjà mentionné, en fait, que ça a commencé depuis des années, ça ne commence pas aujourd'hui. Et justement, je voulais poser une petite question par rapport à ça. Il y avait le précédent programme de coopération suisse 2021-2024 qui avait déjà mobilisé un budget de plus de 320 millions de dinars tunisiens. Il était justement axé sur la gouvernance locale, l'emploi des jeunes, la formation professionnelle. En fait, alors, ce serait important et très intéressant aujourd'hui de savoir en quoi le nouveau programme 25-28 est-il différent du précédent, et est-ce qu'il y a des résultats concrets du cycle, du premier cycle 21-24 qui peut être consolidé quelque part, est-ce qu'il y a une évaluation de cette période-là, de ce programme-là, des projections par rapport au nouveau programme ou pas?
Oui, on fait des évaluations des programmes, et on fait aussi des évaluations de chaque projet. C'est vraiment prévu dans chaque projet qu'on fait une évaluation. C'est une learning by doing continue pour vraiment tirer les leçons, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche bien. Et effectivement, il y a des chiffres. Maintenant, je n'ai pas les chiffres présents par cœur. Je ne peux pas vous dire combien de jeunes ont été introduits sur le marché du travail avec le programme de formation professionnelle, ou combien de nuités ou de personnes formées dans ces projets de tourisme durable. Mais ça c'est constamment fait. Et effectivement, l'ancien programme, le volume était un peu plus élevé, le volume financier. Ça, c'est un peu un développement qui a lieu partout dans la coopération suisse, qu'il y a un peu un abaissement, parce qu'il y a beaucoup de concurrence actuellement ou beaucoup de pression sur les finances publiques suisses. Cela veut dire qu'il y a un peu de pression sur le volume de la coopération. C'est pas quelque chose qui touche uniquement la Tunisie, mais un peu tous les pays dans lesquels nous travaillons.
Donc, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a des priorités ou de nouvelles priorités qui ont émergé quelque part du premier programme, en partant du premier programme à ce programme-là, par exemple?
Oui, je pense qu'on a vu un peu, je pourrais peut-être citer deux exemples. Ouais. Un, c'est le social. Donc, on a compris que le social, depuis quelques années, c'est pour les autorités tunisiennes, c'est très très important.
C'est pas l'équivalent du social quand on dit social, c'est-à-dire
non, le développement social, de pas regarder uniquement les chiffres de développement économique ou de croissance, mais vraiment aussi regarder qu'est-ce qui se passe dans la province, dans la province tunisienne, des besoins en termes de social pour les populations locales sur place. Quels sont les besoins, comment est-ce qu'on organise ces besoins, les discussions pour après identifier un besoin de mettre en œuvre une solution. Ça, on a vu que c'est très important pour le gouvernement, pour le président aussi, et ça, c'est devenu, comme sujet, c'est devenu plus important dans notre programmation. Ou un autre sujet qui est devenu plus important, c'est le changement climatique. C'était pas si c'est assez avec priorité, c'est mentionné maintenant dans le nouveau programme, c'était pas le cas dans l'ancien programme. L'ancien programme, par exemple, on a plus encore parlé de gouvernance. C'était peut-être aussi un peu un terme à la mode. Gouvernance est toujours important, ça c'est clair, mais on en parle un peu moins, plus spécifiquement maintenant avec ce terme.
C'est plutôt dans le sens large, quoi, quand on parlait de
gouvernance. Oui, gouvernance, c'est un peu transversal, parce que gouvernance est partout important. Ouais. Donc, si vous voulez faire un bon développement, la gouvernance des institutions, c'est important.
Exactement. Alors, dans ce nouveau programme, le programme actuel 25-28, il prévoit également un appui ciblé à la transition énergétique. On vous parlait, par exemple, de développement durable ou d'un nouvel, enfin c'est un nouvel axe en fait sur lequel vous êtes un peu plus spécifique. On parle justement de la transition énergétique, du développement urbain, l'accès aux services de base dans les zones marginalisées. Vous avez parlé des localités tunisiennes, de quelques régions spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de projets concrets, en fait, où le mécanisme de coordination prévu avec les différents acteurs tunisiens ou acteurs locaux était vraiment ou sera probablement impactant et très très important.
Oui, par exemple, pour ce qui se passe dans les municipalités, dans les localités, dans toute la Tunisie, on a un projet qui marche très bien, à mon avis, et j'ai aussi pu le visiter plusieurs fois dans plusieurs régions de la Tunisie. Mm-hmm. Il s'appelle IPIDELI. C'est cofinancé par nous et l'Union européenne et mis en œuvre par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Et là, c'est vraiment justement ce que j'ai dit avant, c'est aller dans ces localités, d'avoir des processus où les personnes, les habitants peuvent contribuer à l'identification des besoins, et après on décide des solutions qui après sont mises en œuvre. Et là, par exemple, c'est des questions comme, disons, des projets concrets qui ont été faits, c'est par exemple améliorer l'environnement autour d'une école pour que l'école devienne... Ce n'est pas un centre isolé quelque part où il n'y a rien autour, mais vraiment pour en faire un lieu de rencontre où les enfants se sentent sûrs et protégés, aussi dans les alentours de l'école. Ou par exemple des routes qui ont été faites pour mieux lier les quartiers d'une, ou des parties d'un village qui sont pas très bien connectées. Mm-hmm. Ça, c'est un exemple. Ou par exemple, un autre projet qui a été financé par ça, c'est à Testour, par exemple, une station de louage, mm-hmm, pour améliorer la viabilité. Ils ont construit une station où les louages se garent pour prendre les passagers. Et là, par exemple, il y a aussi encore un financement d'une petite localité où les femmes locales peut vendre les produits locaux à des consommateurs.
C'est pour cette raison en fait que je vous ai posé la question tout à l'heure au niveau d'impact, en fait, comment vous évaluez l'impact de ce genre de projet, parce que en fait les auditeurs par exemple aujourd'hui, je suis certaine qu'ils se posent cette question là parce qu'on voit souvent des financements, il y a un intérêt en fait aux localités, etc. Beaucoup de travaux en fait qui se font par rapport à la gouvernance, mais réellement est-ce que vous pouvez mesurer, est-ce que c'est mesurable, est-ce que vous mesurez l'impact sur la vie de ces gens, l'impact sur leur quotidien par exemple?
Oui, bon, après, oui, effectivement, je dois aussi dire, moi je suis l'ambassadeur, je ne suis pas le spécialiste de la coopération, ouais. Hein, ce n'est pas moi qui gère directement, mmh, ces projets, mais en tant que aussi personne un peu plus, ouais, loin des projets, ouais, elles-mêmes, je comprends très bien votre question. Effectivement, ce n'est pas si facile d'évaluer ces impacts. Oui, je crois qu'on le fait plutôt avec on mesure plutôt ce qu'on peut mesurer, c'est comme, par exemple nombre de personnes formées, nombre de choses construites. C'est des choses comme ça qu'on peut mesurer. Ou par exemple, dans une zone touristique, nombre de nuitées dans la zone touristique, est-ce que ça a augmenté, les places de travail créées par ces activités, etc. Mm-hmm. Mais après, mesurer concrètement quel est le bien-être de la population, est-ce qu'on peut mesurer ça? Moi, j'ai aussi quelques doutes. Je comprends votre question un peu critique, je la comprends.
Ouais. D'accord. Donc, il y a un autre dossier, en fait, qui est aussi très, très... On peut dire que c'est un dossier très lourd, surtout par rapport à la relation avec l'Union européenne d'une manière générale. On parle de la migration. Vous savez que c'est un sujet très sensible. Et j'avais, par curiosité, en fait, une question par rapport... à la position de la Suisse, parce qu'en fait on se pose toujours la question comment concilier les valeurs humanistes que défend la Suisse avec les mécanismes je ne vais pas dire relativement, parce que c'est les mécanismes européens durs et rigides de contrôle migratoire. Comment pouvez-vous faire l'équilibre en fait par rapport à ça?
Oui, je crois on est forcé de faire un équilibre. On veut rester humaniste, on veut, mmh, continuer nos traditions humanitaires, nos valeurs, mais en même temps, c'est aussi un droit souverain de chaque pays de pouvoir décider qui peut venir dans ce pays ou pas. C'est aussi la Tunisie qui veut décider qui vient ici, mmh, et les pays européens ont le même droit. Il faut aussi, nous sommes des démocraties, et il faut que les gens sont d'accord de faire une certaine politique migratoire. Je crois que les gens en Europe, ils comprennent aussi qu'on a besoin de migration. L'immigration, ça restera un sujet très important à l'avenir. Mais je crois aussi que les gens doivent, ils veulent comprendre que ce phénomène est géré, disons qu'il n'y a pas une perte de contrôle. Et je crois que c'est très important parce que sinon, si on ne fait pas ça, si les gens ne soutiennent plus ces politiques, on pourrait avoir beaucoup de problèmes à l'avenir. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler dur, et je crois que tous les responsables en Europe, ils essaient de faire ça, de justement combiner ces deux approches, l'approche humanitaire, les valeurs, mais aussi un contrôle des frontières. On ne peut pas, disons, l'idée que tout le monde peut choisir, il peut aller vivre où il veut, je ne pense pas que
c'est réaliste. La libre circulation, c'est le le rêve de tout le monde, en tout cas.
Oui, là, mais ça ne marche pas, la libre circulation mondiale, ça ne va pas venir. C'est pas réaliste aujourd'hui, ça ne va pas être réaliste.
Alors, ça ne concerne pas uniquement la migration clandestine, ça concerne aussi, il y a un grand problème, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça, par rapport à la fuite des talents, parce que la Tunisie, on voit actuellement, par exemple, si on voit les chiffres, on va voir qu'à peu près, il y a 10%, entre 9 et 10% de la population tunisienne vivent à l'étranger. Donc, c'est à peu près 1 200 000 Tunisiens qui vivent à l'étranger. Une bonne partie, c'est des diplômés, c'est des docteurs, c'est des ingénieurs, c'est vraiment des talents et des cerveaux tunisiens. Donc, comment vous voyez vous percevez ce phénomène-là? Votre Excellence.
Oui, je vois aussi ces chiffres, je constate ça, je vois que j'entends des chiffres comme une grande partie, une belle partie d'une année d'ingénieur ou de médecin travaillent à l'étranger, peut-être même pas en Suisse, ils vont aussi dans d'autres pays. Je comprends que pour la Tunisie, c'est un problème.
En Suisse, ce chiffre, il est important
Disons, je crois, nous, on a un peu l'avantage que, disons, par rapport à ça, une explication est que nous, on a la libre circulation de personnes avec l'Union européenne. Ça veut dire les besoins du marché du travail suisse sont pour une large partie satisfaits par une offre européenne. Et c'est aussi, disons, nous donnons très peu de quotas pour des ressortissants de pays tiers. Il y a un quota de quelques milliers par année pour tout le monde, disons pour le monde entier. Mais disons, par rapport à d'autres pays, nous sommes encore dans une situation un peu privilégiée, si je peux dire, que les besoins sont satisfaits par des Allemands, par des Français. Si,
en interne.
En interne de l'Union européenne, disons de la libre circulation européenne.
Donc vous n'êtes pas, si vous voulez dire, vous n'êtes pas exposé à ce débat ou à cette problématique?
Je crois qu'on est moins touché là. Que par exemple la France ou l'Italie, l'Allemagne. Mais je pense que c'est aussi une question un peu de temps que ça pourrait aussi arriver chez nous, parce que les besoins sont, si on regarde un peu l'évolution démographique en Europe, ça va aussi toucher la Suisse. Mais quand même, il faut aussi dire que la population en Suisse, elle augmente encore, contrairement à d'autres régions en Europe, et c'est aussi un sujet politique en Suisse, parce qu'il y a une partie de la population suisse qui pense qu'il y a déjà beaucoup de gens en Suisse. Il y a par exemple une initiative, c'est une modification de constitution par référendum qui a été lancée tout récemment pour demander qu'on cherche ça mieux, dans le sens qu'on limite ça. Et ça nous poserait aussi des problèmes après avec notre relation avec l'Union européenne. La situation est un peu différente, ce que je veux dire, en Suisse que dans les autres pays européens.
Parce que le lien, il est beaucoup plus avec l'Union européenne que... donc ça se gère en interne, si vous voulez, beaucoup plus qu'avec d'autres pays.
Oui, et contrairement à d'autres pays européens, il y a encore une assez grande immigration d'autres pays européens vers la Suisse.
D'accord.
Ce qui n'est pas, par exemple, le cas en France. Il y a très peu d'autres Européens qui vont en France ou en Allemagne.
Alors, on va revenir juste après les news pour clôturer, justement, et par rapport à la nature de la relation d'une manière générale. Il y a un autre programme aussi, c'est le programme Perspective, sur lequel je veux poser quelques questions, parce que ça intéresse aussi. Ça, oui. C'est directement lié aux jeunes Tunisiens, à l'acquisition d'expérience en Suisse, ceux qui vivent une expérience en Suisse, et puis ils reviennent. Donc, tout ça, c'est très important. On va revenir juste après les news avec Souhaïla El-Somaï. Khodoumana Rajin Bachouay.
Ecomag.
ومازلتوا تسمعوا ديما في ايكوماك على اكسبريس اف ام والحديث متواصل مع ضيفنا سعادة سفير سويسرا بتونس السيد جوزيف رينغلي. مرحبا بك. شكرا على حضورك مرة أخرى. ومازلنا مواصلين في الحديث. كنا نحكيوا على التعاون الاقتصادي التونسي السويسري. نحكيوا على البرنامج التعاون الاقتصادي 2025-2028. البرنامج السابق زاد 21-24 تاريخ العلاقات التونسية السويسرية. كيفاش كان وكيفاش تطور خاصة حكينا على بعض القطاعات المهمة اللي تم العمل فيها أو فيها نوع من الشراكات إن صح التعبير. كيف نحكيه على الهجرة ورؤية سويسرا للهجرة، يتولي سياسة نوعا ما خاصة من نوعها لأنه مرتبطة أكثر بالاتحاد الأوروبي أكثر منه خارج الاتحاد الأوروبي، وتغير نوعا ما في السياسة هذه أو طلب لتغيير في الفترة الأخيرة. ومن ضمن أو في إطار الحديث حول الهجرة بشكل البرامج قلت فيها برنامج من ضمن البرامج اللي تم العمل عليه اللي هو بيرسبكتيف دي بروغرام كوم بيرسبكتيف موبيلايزينغ ذا دياسبورا اند يانغ بروفيشنالز بيرميت ا دو جون تونيزيان داكيرير اون سورت اكسبيريانس ان سويس افون دو ريفينير الوغ كيل ريزولتا كونكري او taux de retour, observez-vous d'une manière générale? Comment est-ce qu'on peut évaluer ces expériences?
Justement, Perspective, c'est un nouveau projet, un nouveau programme qu'on a lancé il y a une année à peu près maintenant. Mais c'est dans un contexte plus ancien. On a déjà, il y a 10 ans, on a fait un accord de coopération migratoire avec la Tunisie qui prévoit plusieurs composantes. Et une des composantes, c'était que la Suisse offrait chaque année 150 postes de travail à des jeunes Tunisiens entre 18 et 35 ans pour faire une expérience professionnelle de 18 mois en Suisse. Et l'expérience a montré que ça n'a pas été utilisé vraiment, cette opportunité. On avait, au lieu de faire 1500 en 10 ans, disons 6 fois 150, on a fait peut-être 200 personnes qui ont utilisé cette occasion. Et on a déjà constaté il y a quelques années que ce n'était pas satisfaisant. Et on a discuté avec les autorités tunisiennes quoi faire. Et puis là, de là est né ce nouveau projet Perspective qui veut améliorer l'utilisation de cet accord.
Alors avant qu'on arrive à Perspective, c'était quoi les raisons en fait qui ont fait que l'objectif n'a pas été atteint?
Disons, plusieurs probablement. Peut-être que ce n'était pas assez connu ce programme. Mais je pense que la raison principale, c'était probablement que le matching ne marchait pas. Donc on n'a pas trouvé les bonnes entreprises pour engager ces jeunes Tunisiens pour faire cette expérience. Parce que pour une entreprise, si vous y pensez, c'est aussi un peu un grand effort. Parce qu'ils doivent, disons, ils engagent quelqu'un, ils le forment pendant 18 mois et après ils partent de nouveau. Ils rentrent après 18 mois en Tunisie. C'est un grand investissement sans que peut-être ils voient le bénéfice pour l'entreprise elle-même. Et je crois là, ce qu'il faut mieux faire, c'est identifier mieux les entreprises qui sont intéressées dans ce type de programme. Et c'est justement là que ce nouveau programme Perspective travaille pour mieux faire cette identification d'entreprises, le matching, aussi la publicité, la promotion de ce programme ici en Tunisie. Ça, c'est une, il y a deux grandes composantes dans ce programme Perspective. L'autre, c'est, ça n'a rien à faire avec la Suisse directement, c'est comment utiliser mieux la diaspora tunisienne, les Tunisiens qui habitent en Europe, qui travaillent en Europe, pour faire des investissements en Tunisie, des projets en Tunisie. Et c'est pas seulement limité à la Suisse, mais ça c'est, disons, tout le monde, tous les Tunisiens qui veulent faire des projets en Tunisie, disons, Tunisiens qui habitent en Europe, qui veulent faire des projets en Tunisie, ils peuvent bénéficier de ce projet.
Ah, donc ça concerne les Tunisiens résidant actuellement en Europe, d'une manière générale.
Voilà.
Donc ça, c'est un programme plus large que Perspective,
c'est une des composantes de Perspective.
D'accord.
C'est une partie qui n'a rien à faire avec cet accord de jeunes professionnels, cet accord qui a déjà 10 ans.
Alors, un autre volet aussi très important, c'est la recherche scientifique. Est-ce qu'on peut, d'une autre manière, en fait, comment est-ce qu'on peut évaluer la coopération en termes de recherche scientifique, en ce qui concerne la recherche scientifique, en fait, entre la Suisse et la Tunisie? Est-ce que c'est vraiment développé ou pas?
Oui, recherche scientifique, la coopération, c'est un sujet assez vaste. Là, on peut aussi parler, par exemple, de beaucoup de Tunisiens qui étudient en Suisse, surtout en Suisse romande.
Ils sont nombreux.
Je ne connais pas le chiffre par cœur, mais quand même assez nombreux, parce que, disons, vraiment presque tous les jours, je rencontre quelqu'un qui me dit « Ah, mon enfant, il étudie en Suisse, j'ai moi-même étudié en Suisse ». C'est vraiment assez courant dans des écoles comme EPFL, l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne, ou HEC, haute études commerciales à Lausanne, ou l'école hôtelière à Lausanne aussi. C'est déjà une composante qui est très, très, très importante parce qu'il y a cette proximité de la langue. Non, les Tunisiens qui parlent bien français, puis il y a les universités de langue française en Suisse. Après, un défi qu'on a un peu dans des coopérations internationales, que chez nous en Suisse, à part les deux écoles polytechniques fédérales, tous les autres universités sont une compétence cantonale. Alors ça complique un peu la manière de faire des coopérations internationales. Mais il y a quand même des coopérations. Il y a par exemple l'EPFL Lausanne, que je viens de nommer déjà, ils ont un programme d'excellence pour l'Afrique. Où ils ont des programmes aussi, disons, dans ce grand programme, et après aussi des coopérations plus directes avec des universités en Tunisie.
Alors, loin de tout ça, en fait, il y a une dernière question, et d'ailleurs, c'est les résultats de quelques enquêtes récentes et de quelques articles médiatiques ces derniers temps. On parle beaucoup de la restitution des avoirs gelés. Vous avez certainement entendu parler de ça. Alors, la Tunisie aurait refusé de récupérer environ 5 millions de francs suisses appartenant à d'anciennes personnalités tunisiennes, selon les dernières news, gelées en Suisse depuis 2011. On se pose beaucoup de questions par rapport aux avoirs gelés d'une manière générale, mais spécifiquement cette fois-ci, comment interprétez-vous cet épisode-là? Est-ce une question technique, juridique, ou cela révèle-t-il un manque quelque part de coordination politique entre les deux pays, votre Excellence?
Je ne connais pas ce cas maintenant, c'est nouveau pour moi.
Ouais, ça fait une semaine à peu près.
Ouais. Ok, je n'ai pas vu ça. Mmh. En tout cas, ce n'est pas une question de politique étrangère entre les deux administrations. Mmh. Disons, on parle de ce sujet aussi clairement. Hein, mais cet argent, il est bloqué à travers des demandes d'entrée judiciaire de la Tunisie en Suisse. C'est un processus judiciaire et ces procédures sont toujours en cours. Et c'est une question de justice entre les autorités judiciaires et l'exécutif n'est pas impliqué. Alors, en Suisse, comme en Tunisie aussi, la justice est indépendante. Et ça signifie que l'exécutif ne s'occupe pas de ces questions. C'est clair, ça, c'est un sujet qui est mentionné quand il y a une rencontre entre des ministres, ou même avec moi, c'est mentionné. Mais c'est, disons...
Parce que ça a pris tellement du temps...
La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer, si jamais il y aurait un problème de communication entre les autorités judiciaires, de faciliter ça. Mais après, c'est vraiment les autorités judiciaires qui doivent résoudre ce problème et parler entre eux.
Votre Excellence, l'ambassadeur de Suisse en Tunisie, Joseph Ringli, merci d'avoir accepté notre invitation. مرحبا بك مرة أخرى في تونس.
Merci beaucoup.
شكرا شكرا لك. وقعدوا معنا رجعين بعد شوية ومازلنا مواصلين معكم ديما في كوماغ على إكسبريس FM. إيكوماغ.